Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Chaque mois, nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont donné un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de voie, de vie. Quel a été leur déclic? Comment ont-elles sauté le pas? Ont-elles trouvé leur Larzac? Elles nous racontent tout ici.
Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver plus de 70 témoignages de reconversion professionnelle sur notre blog ou notre Instagram, deschèvresdanslelarzac.com. Merci à notre partenaire le magazine Rebondir qui nous épaule et nous ouvre les portes de son studio. Et merci à vous surtout de nous écouter. Si le podcast vous plaît, likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que l'aventure puisse continuer.
Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial puisque c'est Caroline, mon acolyte des chèvres dans le Larzac, qui va répondre à mes questions. Donc après 2 ans à tirer les vers du nez de plus de 70 femmes sur Instagram, le blog ou dans notre podcast, c'est à toi Caroline de raconter ton histoire. L'intervieweuse interviewée.
Eh oui.
Donc je commence quand même par un petit traditionnel tour de table. Donc nous sommes avec Christelle Simon du magazine Rebondir, que nous retrouverons, comme à chaque fois en fin d'émission, pour sa chronique « Trouve ton Larzac ». Bonjour Christelle.
Bonjour.
Je suis moi-même Florence Martin-Paulmier, ex-journaliste reconvertie dans les relations médias, puis dans la création de contenu éditorial en freelance. Et enfin, Caroline.
Bonjour Florence.
Dans le Larzac, reconvertie, entrepreneuse et interviewée aujourd'hui. Donc Caroline, tu as 39 ans, 3 enfants et déjà 2 Switch à ton actif. Puisque tu as commencé comme journaliste radio, tu t'es reconvertie dans la communication, tu as quitté le salariat l'an dernier pour lancer ta start-up écolo, Le Caba. Donc on va te poser la question qu'on pose à chaque fois aux invités. Est-ce que tu peux nous pitcher Le Caba en 30 secondes, top chrono?
Alors je vais essayer de faire aussi bien que nos invités. Le Caba, en fait, c'est le site qu'il vous faut si vous avez envie de consommer mieux sans chercher plus. Sur lecaba.fr, j'en profite pour donner l'URL du site, on propose des alternatives éco-responsables pour tous les gestes du quotidien. Donc que vous vouliez remplacer le bidon de gel douche par du savon solide, vous mettre au vélo électrique, adopter les culottes menstruelles plutôt que les protections jetables ou vous mettre au compost. En fait, pour tous les gestes, tous les achats qui sont ancrés dans nos habitudes, il y a des alternatives plus responsables qui existent et Le Caba s'occupe de les chercher pour vous, de les décrypter, de les comparer et aussi de vous donner plein de conseils pour avancer vers un mode de vie plus écolo sans trop de prise de tête.
Donc j'ai testé et approuvé les conseils et les petites recettes d'Icaba. Donc si on revient quelques années en arrière, Caroline, avant de lancer Le Caba, tu as eu plusieurs vies professionnelles, donc ce n'est pas ton premier switch. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, tu as commencé au micro de Radio France, puis tu as travaillé à la communication de la Fondation Apprentis d'Auteuil où on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement toutes ces années?
Oui, toutes ces années, effectivement, j'ai essayé de faire vite. En fait, moi, j'ai une formation de journaliste. J'ai commencé les piges dès le lycée, où je travaillais dans le petit journal local. J'ai fait une école de journalisme ensuite. Et effectivement, j'ai travaillé, comme tu l'as dit, plusieurs années à la radio, notamment à France Info et France Inter, où je présentais les journaux. Donc, j'étais déjà comme là, avec un casque sur la tête et derrière un micro. C'est pour ça que j'adore le podcast. Et donc, après quelques années en radio et en journalisme, j'ai eu l'opportunité en fait de tester un nouveau métier qui m'a plu, c'est-à-dire la communication. Je suis entrée dans une petite agence de com où j'ai passé là aussi quelques années. Donc c'était ma première reconversion parce que c'était tout à fait nouveau pour moi et donc j'ai appris un peu sur le tas ce qu'était un client, un budget, une stratégie de com et la construction d'un site web. Donc j'ai travaillé quelques années là-bas et ensuite j'ai eu envie d'utiliser toutes les compétences acquises en communication pour une cause d'intérêt public. Voilà, j'avais très envie d'aller travailler dans le domaine de l'éducation et c'est là que j'ai pu intégrer la Fondation Apprentis d'Auteuil où nous nous sommes rencontrées toutes les deux. Qui est une fondation, pour la présenter en quelques mots, qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Et là-bas, je travaillais donc à la direction de la communication, où je m'occupais des relations avec les médias, et puis de tous les contenus aussi éditoriaux qui étaient produits sur le site ou sur les magazines de la fondation. Et c'était une super expérience, parce que c'était l'occasion d'être utile, de porter la cause des jeunes en difficulté, des jeunes les plus éloignés de l'emploi, de la porter dans les médias, de faire parler d'eux, d'essayer de faire bouger les choses, faire avancer les politiques publiques en faveur de plus d'égalité dans l'éducation. Donc c'était quand même un sacré challenge.
Donc on voit la manière dont on parle, que tu as quitté un boulot qui te plaisait, qui avait du sens et qui comptait pour toi. Donc c'est rare, parce que nous, on interview plutôt des femmes qui sont parties d'un boulot qu'elles n'aimaient plus. Pourquoi tu es partie du coup?
Alors ça, c'est la grande question qu'on m'a beaucoup posée, parce qu'effectivement, j'avais la chance d'avoir un boulot sympa, qui a du sens, et avec des gens super et voilà, très bien entourés. Mais en fait, j'ai fait ça pendant 8 ans et demi. Et malgré tout, j'ai quand même ressenti un essoufflement au bout de quelques années. C'est-à-dire que je sentais que la flamme était peut-être plus la même qu'au tout début, que j'avais testé pas mal de choses. Et surtout, je me disais, bon, j'ai encore des années et des années devant moi. Est-ce que j'ai envie de faire la même chose toute ma vie? Est-ce que j'ai envie de changer, de tester d'autres métiers? Donc l'envie a commencé un peu à me titiller. L'envie d'entreprendre aussi, ça faisait longtemps que j'y pensais un peu. Sans oser, parce que justement, je me disais tout le temps, non mais attends, t'as un job super, qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14h, reste où t'es, et en même temps j'avais cette petite musique de fond.
Qu'est-ce qui du coup t'as décidé à partir? T'as eu un déclic? Comment ça s'est passé?
Bah, déjà, une chose quand même, c'est que j'avais pas envie d'attendre d'être vraiment lassée ou essoufflée ou démotivée pour partir, parce que justement c'est une bonne expérience et j'avais envie de partir bien, en l'ayant choisi, en ayant trouvé ma voie, et voilà, j'avais pas envie d'attendre d'en avoir marre, quoi, clairement. Donc je voulais que ça reste positif. Et puis après, il n'y a pas eu vraiment de déclic, mais quand cette envie a commencé à arriver chez moi, tu étais là et on en a parlé des centaines de fois,
plus.
et plus. On a eu envie justement d'aller chercher de l'inspiration et de rencontrer d'autres personnes qui avaient changé de vie. Donc c'est comme ça que les chèvres sont nées. Et donc si j'avais un déclic, ce serait quand même les chèvres dans le Larzac. Parce que finalement, quand on a commencé toutes les deux à interviewer des femmes qui avaient changé de voie, moi ça m'a aussi ouvert les yeux. C'est-à-dire que j'ai compris qu'on pouvait avoir 1000 vies professionnelles. Tous les métiers dont on parlait avec les personnes que j'interviewais, à chaque fois, je dis, non mais ok, j'ai trop envie de devenir fleuriste. Non mais en fait, j'ai trop envie de lancer ma marque. Hein, j'ai trop envie de devenir, je sais pas, Jean Immo, je sais pas. On a fait tellement de métiers. Et à chaque fois, je me disais, mais ça a l'air génial. Et donc, je me suis juste dit, mais en fait, il y a tellement de vie. Donc voilà, il faut que tu commences maintenant. Si tu as envie de changer et de tester d'autres métiers, il faut y aller. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Donc go, quoi.
C'est vrai que je me souviens bien de cette période où on était surexcités par la reconversion professionnelle. Comment toi, tu as cheminé? Parce que c'est bien d'avoir cette envie de changer, mais comment est-ce que tu as trouvé ta voie? Est-ce que tu t'es fait aider?
Bah, à ce moment-là, après avoir pris ma dose d'inspiration auprès de toutes les premières femmes qu'on a interviewées, je me suis dit qu'effectivement, il fallait structurer un peu cette réflexion. Et donc, je me suis lancée dans un bilan de compétences, un schéma assez classique. Moi, ce bilan de compétences m'a vraiment aidée à structurer, parce que j'avais 10 000 idées différentes. C'est ce que je te disais, je pouvais passer un matin en me disant que je voulais être fleuriste et le lendemain que je voulais ouvrir un resto. Donc j'ai bien senti qu'il fallait canaliser tout ça. Et ce bilan m'a aidé à faire le point sur mes compétences, c'est le principe, mais surtout sur ce que je voulais et je ne voulais pas. Parce qu'en plus, moi, je partais d'un boulot que j'aimais bien. Donc c'était encore plus compliqué, j'étais pas en opposition. J'étais juste à la recherche de quelque chose de nouveau qui pourrait m'épanouir différemment et dans lequel je pourrais quand même réutiliser mes compétences et continuer aussi à utiliser ce que je savais faire, c'est-à-dire écrire, faire de la com, parce que j'aimais ça en fait. J'étais pas en lutte avec ce métier-là, j'aimais ça. Donc j'avais envie de trouver d'autres façons de l'appliquer avec peut-être plus de liberté. Et donc assez vite, plus de liberté et puis plus d'équilibre pro-perso, je pense. Donc assez vite, la piste de l'entrepreneuriat s'est dessinée pendant le bilan de compétences. Et mais restait à savoir un peu dans quel domaine. Donc j'ai en fait, je suis partie de mon bilan avec deux projets assez différents, mais assez aboutis, dans le sens où quand même en bilan, on vous fait travailler jusqu'au business plan, comment est-ce qu'on va s'y prendre, quelles sont les étapes qu'on va mettre en place, etc. Donc je suis vraiment partie avec un petit document pour deux options de, ok, quand tu auras quitté ta boîte, tu pourras faire ça. Et voilà, et j'avais l'impression d'être un peu plus armée après ce bilan, ouais.
Alors, Caroline ne ment pas, hein, c'est-à-dire que tous les jours, elle me disait qu'elle allait être créatrice de bijoux, boulangère, décoratrice d'intérieur. Mais au final, effectivement, tu t'es repartie avec une idée assez forte de créer des suites. Et cette idée de créer un site aussi sur la consommation responsable. Donc comment est-ce que t'as tranché?
Bah effectivement, je suis partie avec l'idée de lancer une marque de vêtements, mais assez vite, j'ai quand même été confrontée à plusieurs difficultés. Déjà, c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Et je me suis vite dit, mais en fait, voilà, tu connais rien, tu connais pas les fournisseurs, tu t'es jamais dessiné un vêtement, ça va quand même être très compliqué. Donc, ça m'a déjà un peu fait peur. Et puis, en plus, c'est vrai que, l'industrie textile est une industrie extrêmement polluante. Donc, ça venait à se confronter un peu violemment avec des convictions grandissante en matière d'écologie et l'envie de consommer mieux, de consommer différemment. Donc il y a un moment où j'étais là, ok, est-ce que c'est vraiment la bonne idée pour toi ? Effectivement, j'avais aussi en tête cette envie de communiquer, de faire un média et de l'info autour de la consommation responsable, mais je me sentais pas trop capable de me lancer là-dedans toute seule en fait. Et donc j'en étais un peu à cet entre-deux quand le Covid est arrivé. Donc ça a encore un peu plus troublé cette réflexion et ça m'a fait hésiter, bah jusqu'au moment où, coup du destin, j'ai été mise en relation avec Clérane, qui est devenue mon associée depuis et qui en fait avait un peu le même projet de faire un média et de l'info autour de la consommation responsable et qui cherchait une associée. Donc c'est le fruit du hasard total, mais... un jour j'ai été contactée par Clérane qui me dit j'étais le projet, j'avais l'impression qu'elle me parlait du mien en fait, et elle me disait je cherche une associée pour faire ça quoi.
Donc là, gros coup de chance suivi d'un petit coup de malchance, puisque vous avez lancé votre boîte en plein confinement.
Bah effectivement, parce qu'en fait, notre première rencontre était censée avoir lieu le 16 mars, jour du confinement. Donc, on a mis des mois avant de se voir, donc des mois à discuter en visio et à commencer effectivement à travailler ensemble, à collaborer sur le projet toutes les deux de façon ponctuelle et puis de plus en plus régulière. Et puis, à la fin du confinement, en juin, j'étais à 250%. J'avais hyper envie de me lancer. On avait déjà monté une équipe et créé une première version du site lecabas.fr, donc c'était quand même bien sur les rails et donc dès qu'on a pu se rencontrer et valider le fait que on s'entendait bien et qu'on se sentait capable d'entreprendre ensemble, on s'est associés et on a poursuivi le chemin toutes les deux.
Alors on sait que le parcours d'entrepreneur est fait de haut et de bas. Bon, vous avez commencé avec le petit bas du confinement.
Quand même. C'est pas simple de lancer effectivement en confinement.
Oui, surtout qu'on rappelle quand même que tu as 3 enfants, il y avait l'école à la maison.
Tout à fait, voilà. Je pense que plein de gens ont connu cette situation, mais effectivement, c'était quand même très particulier.
Est-ce que c'est ta plus grosse galère ou est-ce que tu en as eu d'autres ?
Non, franchement, pour l'instant, avec le cabas, j'ai pas eu l'impression d'avoir de galère, hormis cette frustration de se dire on lance quelque chose alors qu'on est chez nous, qu'on peut pas rencontrer. On avait une petite équipe de stagiaires, il y en a certains que j'ai jamais rencontrés en vrai, en fait, parce que leur stage s'est arrêté, on était encore confinés. Enfin, c'est très troublant de créer des habitudes avec ça. C'était très angoissant aussi parce que, on avait quand même... la situation économique est pas bonne et il va peut-être pas s'arranger dans les mois qui viennent. Donc se dire tiens, j'ai quitté un job bien au chaud en CDI pour aller monter mon truc au moment où tout s'effondre, c'est pas très rassurant. Mais sinon pas de grande galère encore dans ce beau projet qui démarre.
Et du coup, pour aller sur une note un peu plus positive, quelle a été ta plus belle surprise ou quelle a été la plus grande joie aujourd'hui du cabas, enfin de ton aventure dans le cabas ?
Je vais te faire une réponse de Gascon un peu, mais j'en ai tous les jours parce que ce qui est génial avec la création d'entreprise, c'est que tout est tout le temps nouveau. Moi, j'ai l'impression de construire une maison et chaque brique que je pose m'enthousiasme à 250%. Parce que, dès qu'on a un retour d'utilisateur du site positif, parce qu'on a un petit système de notation, et on a un mail automatique dès que quelqu'un met une note, mais dès que j'ai 5 sur 5, moi, je suis hyper contente. Dès qu'on a un média qui parle de nous, je suis hyper contente. Voilà. Dès que je fais une petite vidéo sympa et qu'il y a des bons retours sur les réseaux, je suis contente. Et puis j'ai surtout l'impression qu'on sert à quelque chose, donc dès que j'ai des gens aussi qui me disent « Ah tiens, j'ai vu ta recette pour faire ma lessive, je m'y suis mise », je suis contente, parce que quand tu t'es mise, Florence, à faire tes furoshiki, c'est-à-dire tes emballages en tissu pour tes cadeaux de Noël sur mon inspiration, j'étais contente. Voilà, on a l'impression d'être utile et ça fait plaisir.
Ça fait plaisir de te faire plaisir. Donc super, donc ça c'est des joies qui te semblent aujourd'hui plus profondes en tout cas que dans le salariat, parce que il y a plus d'affect, parce que c'est à toi, c'est ton projet, ton bébé.
Oui, effectivement, t'as raison, c'est un peu mon bébé, donc C'est de la reconnaissance directe. Parce que quand tu travailles dans une grande entreprise, tu peux avoir des moments hyper forts, hyper positifs, te sentir fier de ton travail. Mais c'est vrai que c'est souvent très dilué parce que tu sais souvent que c'est une victoire collective. Et c'est génial aussi, hein, les victoires collectives. Et là, c'est une victoire collective avec mon équipe. Mais c'est vrai que... on prend toutes nos décisions, tout ce qu'on décide, c'est nous qui le décidons, c'est pas un conseil d'administration, c'est pas un N+27, c'est nous qui décidons de faire ça. Et parfois on se plante et parfois ça marche, mais quand ça marche, c'est génial, et quand on se plante, on apprend pour la fois suivante. Donc c'est assez profond, ouais.
Donc ça, c'est vraiment le côté positif pour toi de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs que tu vois aujourd'hui?
Les côtés négatifs, c'est déjà effectivement moins stable et moins constant que le salariat. C'est sûr que financièrement, on ne se paye pas. Je pense que ça va mettre un petit peu de temps avant qu'on dégage nos salaires. La chance d'être dans un pays formidable qui nous permet, en tout cas pour l'instant, de pouvoir tenter cette aventure-là avec un petit avec quand même un soutien financier, donc c'est bien. Ça, c'est assez angoissant. Après, je travaille beaucoup, mais c'est vrai que le bilan est quand même clairement positif.
Et tu parlais tout à l'heure de ton équilibre vie pro-vie perso qui avait pesé dans la balance pour justement entreprendre. Tu dirais quoi aujourd'hui de cet équilibre-là?
Je dirais joker. Non, je dirais que la période est tellement particulière avec le confinement qu'effectivement c'est difficile d'en juger. Moi, c'est vrai que dans mes envies d'entreprendre, il y avait clairement un désir de liberté et de pouvoir travailler au rythme où je le voulais, quand je le voulais, pas forcément dans l'idée de travailler moins. Ça, j'étais quand même pas dupe sur ça, parce qu'on sait quand même bien que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est rarement pour travailler moins qu'en salariat, mais je voulais pouvoir m'organiser avec les enfants. Je le fais quand même parce que je peux m'accorder des mercredis après-midi, je peux les emmener faire du sport, et c'est vrai que j'ai quand même la liberté aujourd'hui de me dire, je fais la sortie piscine parce que je suis devenue mon propre boss.
Et que je peux rattraper le soir
et que je bosse quand je veux. Donc, c'est, de ce point de vue-là, c'est clairement plus souple. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail et qu'avec ce confinement, mais là, je n'apprends rien à personne, mais quand on est à la maison et qu'on travaille et que les enfants sont là, tout se floute un peu. Et la limite privée, enfin perso-pro, est très floutée.
Alors, c'est l'heure de notre petit questionnaire spécial bergerie. Donc, tu vas t'y coller aussi, hein, comme tous nos invités. Est-ce que tu as trouvé ton Larzac?
Oui, je pense. Et mon Larzac est en Bretagne. Voilà. Donc, je suis pas sûre d'aller y élever des chèvres. Je ne sais pas quand j'irai, si ce sera pour la retraite ou avant. Mais en tout cas, ouais, il y a un petit coin de Bretagne qui me plaît beaucoup.
Et qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie aujourd'hui?
De travailler avec un masque toute la journée. Là, on est devant le micro, on a enlevé le masque 20 minutes, ça fait tellement de bien. Et puis de dire chute aux enfants. Bref, il faut que l'école reprenne et que la vie normale reprenne, quoi.
Est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, l'herbe est plus verte que dans ta vie d'avant?
Eh bien, je dirais que c'est un autre pâturage. Parce que j'ai eu la chance d'avoir toujours une herbe assez verte, mais là, l'herbe est quand même bien fraîche, donc c'est pas mal.
Chouette. Place maintenant à la chronique de Christelle Simon, Trouve ton Larzac. Donc Christelle, aujourd'hui, tu vas nous dire comment bien s'entourer quand on change de vie.
Oui, alors quand on débute dans un projet de reconversion, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire, il vaut mieux être bien entouré pour ne pas être seul face à de potentielles peurs ou angoisses qui peuvent survenir et qui sont totalement légitimes. Alors, dans un premier temps, il vaut mieux éviter l'entourage très proche. Alors, je parle évidemment pas de votre conjoint, notamment s'il doit y avoir une organisation de vie de famille, mais c'est une discussion qui doit être abordée dès le début. En revanche, mieux vaut éviter vos parents, votre entourage proche, si ces personnes ne sont pas déjà passées par un projet de reconversion ou un grand changement de vie, car ces personnes qui vous aiment auront, par instinct de protection, des phrases un peu choc et pourraient vous dire « Ah, c'est risqué, fais pas ça, tu as un job stable, que veux-tu de plus ?» Voilà, ils peuvent vous transmettre leur peur, surtout quand le projet est encore en cours d'élaboration, car on est plus vulnérable et on peut se mettre à douter de son projet, et c'est un peu dommage. Alors, il faut donc s'entourer de personnes qui sont dans une même démarche que la vôtre ou qui sont déjà passées par là. Ça permet d'échanger, de se rassurer, de se faire conseiller. Les critiques seront constructives. Alors, vous pouvez trouver ces personnes dans votre réseau, des amitiés, des connaissances, des personnes qui vous inspirent lors de conférences ou bien sur les réseaux sociaux. Il ne faut bien sûr pas hésiter à rentrer en contact avec eux pour qu'ils vous expliquent leur parcours et donnent des conseils. Vous pouvez également vous inscrire à une formation ou à des clubs d'entrepreneurs qui élargira bien sûr votre réseau. L'objectif étant la bienveillance et des critiques constructives pour rester motivé sur votre projet.
Merci Christelle. Du coup, une petite question me revient, Caroline. Toi, ça s'est passé comment avec ton entourage, notamment ton mari, quand tu as évoqué l'idée d'entreprendre et de lâcher ton boulot?
Bah, j'ai eu un accueil plutôt favorable, mais après, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais attends, t'aimes bien ce que tu fais pourquoi ce choix ?» Après, j'ai quand même l'impression d'avoir été très soutenue. Mais c'est vrai que c'est une période particulière et je trouve que c'est très intéressant de se dire de qui on s'entoure, parce qu'en fait les gens ont toujours des idées, alors notamment quand on veut entreprendre, donc on a quand même des idées business, tout le monde a un avis, c'est un peu comme donner le prénom de son enfant avant qu'il soit né et que tu vois à la tête des gens qu'ils sont en train de te dire ouais super, alors qu'en fait ils en pensent pas un mot, et quand t'es dans une création d'entreprise, tout te fait douter, donc je pense que c'est effectivement bien de ne pas en parler à tout le monde et de savoir vers qui se tournait. Mais moi, j'ai eu un accueil favorable et puis surtout, j'ai eu un accueil super favorable grâce au chef dans le Larzac, parce que, encore une fois, ça faisait... même si c'est virtuel, en fait, toute cette communauté, elle nous soutient beaucoup. Et je trouve que quand toi et moi, on a annoncé ce qu'on allait faire, qu'on quittait nos boulots, qu'on se lançait, on a eu des retours super positifs, hyper encourageants. Et à chaque fois, ça fait vraiment du bien et je trouve que ça remotive dès qu'on a une conversation comme ça avec cette communauté.
Ouais,
et
puis c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui entreprennent aujourd'hui. Ce qui n'était pas forcément le cas dans notre entourage traditionnel. Mais du coup, avec les chèvres dans le Larzac, de voir qu'il y a plein de gens qui sont dans ce schéma-là, qui ont les mêmes doutes, qui ont aussi les mêmes surprises, enfin voilà, qui vivent un peu tout ce qu'on dit, et c'est assez rassurant.
Oui, et puis qui passent par les mêmes hauts et les mêmes bas, parce que je trouve que, enfin, on a rencontré des entrepreneuses qui nous disent mais j'ai envie de tout plaquer, c'est l'enfer, et puis le mois d'après, tu vois qu'elles se regonflent, mais de se dire qu'on n'est pas les seuls à passer par des moments où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est quand même assez rassurant.
Bon bah merci la communauté et merci Caroline de nous avoir partagé ton histoire et d'avoir changé de place aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que l'histoire de Caroline vous a inspiré. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, nous sommes toujours ravis de vous retrouver et de discuter avec vous sur Facebook, ou sur notre Instagram des chèvres dans le Larzac.
Merci Florence, merci à tous.